Chapitre 8. Au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière.
Vous allez où?
Ça te regarde pas, Chris. Raté pour la sortie en douce, pesta intérieurement Zizo. Chrysante les avait repérés. Alix et lui s'étaient pourtant levés au petit matin alors que le soleil éclairait encore à peine le parc du château. Ils avaient attendu Sabi et Akan, ainsi qu'Agnel, et Valère, dissimulés derrière les ormes de l'allée du manège, veillant à ce que personne ne les voie. De toutes les façons, les ministres ainsi qu'Ogénor et Mordelia étaient occupés au conseil.
« Vous allez dans la forêt ?» insista Chrysante.
« Ça ne te regarde pas, » répéta Zizo.
« Et on est pressé. »
Il fit signe à ses quatre compagnons de continuer d'avancer dans l'ombre des arbres, mais Chrysante ne le lâchait pas.
Vous allez voir l'enfant loup? Vous allez lui apporter un cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça? C'est bizarre. Personne ne l'a revu depuis plus d'un an, depuis qu'il a fait semblant de se noyer. Pourtant, tout le monde sait qu'il est vivant. Je suis sûre que ce garçon cache un truc. Je peux venir avec vous?
Non. Chrysante portait une petite robe à fleurs démodées, trop large pour son corps maigre. Le tissu flottait sur elle, tel un rideau mal taillé, à l'exception de la bosse à hauteur de sa poitrine. Jamais elle n'avait montré ce qu'elle dissimulait, mais tout le monde devinait qu'elle avait accroché sa poupée Lali sur son cœur, comme un bébé collé au sein de sa mère. Depuis un an, le visage de Chrysante s'était encore creusé, et ses petits yeux ronds continuaient de tourner dans leurs orbites comme deux billes jamais fatiguées.
« Vous avez une sale tête !»
osa leur lancer l'adolescente.
« On dirait que vous n'avez pas dormi de la nuit. »
« On a fait un peu la fête, » avoua Zizo. « C'est pour ça, on a besoin de prendre l'air. Laisse-nous, tu vas nous faire remarquer. » Chrysante attrapa Zizo par la manche avant qu'il puisse s'éloigner.
« J'étais des vôtres avant. Sans moi. »
Tu n'aurais jamais trouvé la tombe de Marie-Lune. J'ai éborgné Novak pour te sauver, quand t'étais coincé dans la chambre du roi. »
Elle avait raison, pensait Zizo. Chrysante avait toujours été de leur côté. Mais Alix ne pouvait pas la supporter. Elle la trouvait incontrôlable, capable de tout dans un accès de colère. Et elle passait un peu trop de temps avec Bill aussi.
On a grandi depuis, Chris. On suit chacun nos vies.
Il réussit à s'échapper, à marcher jusqu'à l'orme suivant, mais Chrysante ne le lâchait pas d'un mètre.
« On suit chacun nos vies? C'est quoi ces bêtises? En vrai, t'as traîné avec moi tant que j'avais ce livre de pierre seule, et dès qu'Ogénor l'a brûlé, tu m'as largué parce que t'avais honte de moi. »
Sabi et Akan avaient déjà atteint un nouvel arbre, prenant soin de ne pas avancer à découvert. Alix tira la main de Zizo en fusillant Chrysante du regard.
« Je n'ai jamais eu honte de toi, » fit Zizo.
« Mais... je dois y aller. » Chrysante haussa les épaules comme si elle s'en fichait. Elle caressa la bosse sur sa poitrine et choisit une nouvelle victime.
« T'as pleuré ?»
demanda-t-elle en se tournant vers Agnel. Il était impossible de ne pas remarquer les yeux rougis de l'ado oiseau. Chrysante insista, cruelle.
« C'est parce que les Romanos sont repartis? J'ai vu leur roulotte s'éloigner quand il faisait encore nuit. Adios, la belle manouche et son joueur de guitare. Mais ce n'est sûrement pas pour la fille que tu pleures, hein? Et pour l'autre, avec ses doigts de fée et sa voix d'or. C'est comme ça, les gitans, toujours sur la route. Faut pas s'attacher parce que on peut pas les attacher. Tu peux pleurer, mon ange. » Parce qu'ils ne reviendront jamais.
Agnel ne répondit rien. Il se contenta de fixer au loin la ligne d'horizon au-dessus des colonnes de marbre du Grand Trianon.
« T'es pas obligée d'être méchante ?»
réagit Zizo. Chrysante ne prêta aucune attention à sa remarque et se rapprocha de Sabi, le visage déformé par une vilaine grimace.
« Remarque, toi ?» fit-elle en ricanant. « Ça t'arrange plutôt qu'elle revienne pas, la gitante, vu comment ton mec la regardait. Tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Il existe une fille plus belle que toi. »«
Arrête, Chris !» dit Zizo en élevant le ton.
« Laisse tomber !»
tempéra Sabi.
On y va.
Elle se colla ostensiblement à Akan. Et tous commencèrent à s'éloigner, d'arbre en arbre, toujours dissimulés par les ombres de l'aube. Cette fois, Chrysante ne les suivit pas, mais continua de parler, penchée sur sa poitrine, comme si elle se confiait à son cœur.
« Tu vois, Lali, les hommes ne sont que des vers de terre. Le grand Akan, comme le savant Valère, ils rampent tous devant la première fille qui attire la lumière. Elle leur brûlera le cœur à tous, crois-moi. Un incendie pire que celui d'hier, elle n'apportera que le malheur. Pire encore, la mort. »
Le petit groupe de six s'était enfoncé dans la forêt. Ils avaient pris 1000 précautions pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Agnelle était montée jusqu'à la cime des plus grands chênes, plusieurs fois, pour disposer de la vue la plus dégagée possible, et Valère leur avait fait emprunter des chemins que personne ne connaissait. Il était impossible qu'on ait pu les repérer.
« Lupo ! Lupo, tu es là ?»
criait Sabi.
« Lupo ! Lupo Nero ! »
l'accompagnait Alix.
« Lupo Nera ! » rectifia Valère. « Quand on est seul, on doit l'appeler Lupo Nera !»
L'historien n'avait mis dans la confidence que ses meilleurs amis, Alix, Zizo, Sabi, Akan et Agnel. Ceux dignes de confiance et capables de garder cet incroyable secret, l'enfant loup était une fille. Il ne l'avait rencontrée que 2 ou 3 fois au cours de l'année passée.
« Lupa !»
cria encore Sabi, agacé.
« Lupa, tu es là !»
Ils parvinrent dans une clairière à proximité d'une partie presque inaccessible de la rivière. Valère s'arrêta devant une termitière haute de près de 2 mètres et leur fit signe de se taire. Ils attendirent, longtemps, jusqu'à ce que la Dolouve surgisse dans leur dos comme d'habitude au moment où ils s'y attendaient le moins. Elle portait une tunique de cuir élimée, couleur feuille morte, grossièrement recousue avec des pièces de peau plus claires. Ses jambes et ses bras étaient toujours aussi musclés. Sa poitrine, peu formée et de loin, à l'exception de ses cheveux longs, elle ressemblait plus que jamais à un garçon. De près, non. Les traits fins de son visage, la grâce de ses gestes félins, ses hanches délicatement dessinées, la trahissaient.
« Qu'est-ce que vous faites là ?» s'inquiéta Luponera. « Je vous avais demandé de ne revenir que quand ce serait absolument nécessaire. »
« Et ça l'est !»
assura Valère. Et tous lancèrent en chœur
« Joyeux anniversaire !»
Lupa ne put s'empêcher de sourire. Elle avait beau être l'ado la plus solitaire du Nouveau Monde, les 6 casse-pieds devant elle étaient ses seuls amis.
« On n'allait pas te laisser le fêter toute seule !» insista Zizo.
« On t'a même apporté des cadeaux !»
ajouta Alix en sortant de son sac 2 paquets emballés. Elle les fourra dans la main de la fille louve. Lupa les regarda, étonnée.
« Merci. Mais pourquoi tout ce papier autour ? Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. »«
Ouvre !»
ordonna Valère. Lupa Nera ôta l'emballage avec autant de précaution que s'il s'agissait de la peau d'un animal vivant, puis le plia et le redonna à Alix. Elle baissa enfin les yeux sur les paquets. Le premier contenait des ciseaux.
De vrais ciseaux de coiffeur, précisa Alix. C'est Coco qui me les a donnés. Avec ça, tu pourras ressembler à un vrai garçon.
Et l'autre paquet, continua Sabi, c'est offert par les Lolly Girls.
Lupa Nera découvrit une collection d'étranges instruments de torture miniature.
Ce truc qui gratte s'appelle une lime à ongles,
expliqua Sabi.
Ce truc qui pique est une pince à épiler. Le pot de peinture noire, c'est du mascara pour tes tatouages ou pour tes yeux, comme tu veux. Et pour finir, un échantillon de crème pour le visage à l'aloe vera mis au point par Lunella. Avec tout ça, quand on aura envie, tu pourras presque ressembler à une fille.
Ils éclatèrent tous de rire.
Et ça, c'est de ma part,
ajouta Valère. Il poussa un carton dans lequel étaient rangés 10 de livres.
L'appel de la forêt... « Le dernier des Mohicans, Robinson Crusoé,
Souviens-toi, lors de ton passage au château, tu avais réappris à lire.
Et tu avais adoré.
Ils s'installèrent tous les sept dans la clairière. Les ados, en plus des cadeaux et des livres, avaient apporté des gâteaux.
Pique-nique bio, annonça Valère, avec rien que des ingrédients ramassés dans la forêt. Tu vas être fier de nous.
Valère déballa des écorces de bouleau bouillies, une salade de jeunes pousses d'érable, des beignets au miel de tamarac rebaptisés corne de faon. Luponera sembla particulièrement appréciée. Elle demanda, sans même vider sa bouche,
« Pour de vrai, pourquoi êtes-vous venu ?»«
Tu te souviens de ta promesse, » fit Valère.
« Quelle promesse ?»«
À 16 ans, c'est-à-dire selon toi, quand nous serions grands, tu devais nous parler de tes souvenirs et de ton père. »
Luponera en cracha sa corne de faon. Elle hésita à planter là, devant cette termitière, ces hypocrites qui se fichaient bien de son anniversaire. Il n'était donc venu que pour fouiller sa mémoire et piller son passé. Elle siffla entre ses dents.
« Mes souvenirs. Pourquoi ils vous intéressent ?»
Zizo, après avoir difficilement avalé un solide morceau d'écorce de bouleau, haussa la voix.
« Tu le sais très bien. Ne me dis pas que tu n'as pas vu les flammes hier dans le parc du château. Des dizaines de Préma et d'autres ados ont failli mourir brûlés simplement parce que Mordelia et Augénor ne les considèrent pas plus importants que des termites qu'on écrase sous nos pieds. Et ce n'est qu'un début. Mordelia va devenir de plus en plus cruelle. Et Augénor la laissera faire parce que ça l'arrange. Elle va être réélue reine, ce n'est même pas la peine de se présenter contre elle. Le monde va devenir toujours plus sévère. Sévère et injuste.
Et alors ? Demanda Luponera.
C'est votre monde, pas le mien.
« Si, continua Zizo, si, c'est aussi le tien, et plus que tu ne le crois. »«
Ah, »
fit négligemment la fille louve en suçant ses doigts.
« Et pourquoi ?»«
Parce que Génor a peur de toi. »
Luponera fixa un instant la termitière. Cette tour de sable et de terre pour ces insectes de quelques millimètres équivalait pour les hommes à un immeuble haut d'un kilomètre, un chef-d'œuvre miraculeux. Le plus minuscule des animaux était capable de prodiges dont l'être humain n'avait pas la moindre conscience. Elle se reconcentra, essayant de dissimuler son trouble.
Peur de moi, n'importe quoi.
Cinq paires d'yeux fixaient Zizo. Ils avaient préparé leurs arguments pendant des heures et décidé que ce serait Zizo qui parlerait pour forcer Luponera à se dévoiler.
Oh oui, crois-moi, Augénor a peur. De sa sœur, parce qu'elle est la seule qui peut s'élever contre lui. Elle est la fille de Marie-Lune, mais elle a été élevée par son père, Pierre Seul. Augénor la cherche partout depuis presque 2 ans, et sa sœur, c'est forcément toi.
Luponera changeait sans cesse de position, accroupie, en lotus, les genoux contre sa poitrine. Tous devinaient qu'elle n'avait qu'une envie, attraper la liane la plus proche et s'envoler vers la cime des arbres. Elle ne bougea pas pourtant, mais chercha dans les yeux de Valère un soutien, sans en trouver. L'historien ne fit que confirmer l'évidence.
Tout concorde, Lupa. Ton père, Pierre Seul, a survécu plus longtemps que les autres adultes. Il a essayé de sauver le maximum d'enfants de la ville, puis s'est réfugié, seul, dans la forêt, avec toi, pour te protéger.
Luponera ressemblait à un animal pris au piège.
Désolé, Lupa, fit Sabi avec un sourire désabusé, mais le destin de l'humanité va se jouer entre toi et ton frangin Nonor. Un duel à mort.
On n'a pas de preuves, se défendit la fille louve. On ne peut pas être sûr.
Valère, sensible à sa détresse, fit glisser vers Lupa les dernières cornes de faon, puis posa une main sur son épaule.
« De quoi te souviens-tu exactement ?»«
De mon père, je vous l'ai déjà dit. De ses conseils pour survivre dans la forêt, de tout ce qu'il m'apprenait sur les plantes, sur les animaux, des histoires qu'il me racontait. »«
Tu l'appelais Pierre Seul ?» demanda Zizo.
« Je l'appelais papa. »«
Et lui, il t'appelait comment ?»
ma louve, ma cigale, ma panthère, ma grive, ma belette. Ok, jamais il ne t'a appelé Céleste ?
Louponera grimaça.
Non, ça je m'en souviendrai.
Alix prit le relais.
Ton papa, t'a-t-il parlé de ta mère Marie-Lune et de ton frère Augénor ?
Une nouvelle fois, Louponera chercha du secours dans les yeux de Valère. L'historien ne se laissa pas attendrir.
Tu dois tout nous dire. C'est très important.
La fille Louve céda.
Oui. Il me parlait parfois de Marie-Lune. Et des enfants du château aussi. Et de ceux du tipi.
Et d'Augénor ?
Insista Valère.
Il ne m'a pas dit son nom. Du moins, je ne crois pas. Mais il me parlait souvent d'un enfant handicapé dans un fauteuil roulant. Il me disait qu'il était très dangereux, que je devais m'en méfier. Mais il ne m'a jamais dit que c'était mon frère.
Ou bien tu ne t'en souviens plus,
fit Alix. Ou il a voulu te protéger, murmura Zizo. J'ai une autre question. Est-ce que ton papa, quand tu étais petite, t'a confié une sorte de cahier ?
Louponera s'apprêtait à croquer un beignet au miel, elle resta bouche bée.
Oui, mais comment peux-tu être au courant ?
Tu peux me décrire ce cahier ? Continua Zizo en essayant de dissimuler son excitation.
Il était étrange. Il y avait des dessins bizarres dessus.
Tu peux me les décrire ?
Évidemment. Il y en avait 6. Une lune d'abord, puis un cercle avec un point au milieu, une femme allongée après, et un homme debout, et pour finir, un œil avec une sorte de lit.
Les 5 autres ados avaient eux aussi arrêté de picorer dans le pique-nique bio, n'osant même plus respirer. Sans aucun doute possible, les 6 symboles étaient ceux du cahier de Pierre-Sol.
« Tu as lu ce cahier ?»«
Non. Enfin, un peu, le début. Mais je ne comprenais pas tout. Je ne savais pas bien lire à l'époque, et quand mon père m'a laissé pour aller nager au plus profond du lac sans jamais remonter à la surface, j'ai de moins en moins su. »
La voix de Zizo se fit la plus douce possible.
« Et qu'est-il devenu, ce livre ?»«
Je l'ai perdu. »
« Ou on te l'a volé ?»
Louponera fixa Zizo encore plus impressionné. « Est-ce que ce garçon possédait le don de lire dans son passé ?»«
Oui. Le cahier était toujours caché sous mon lit, dans ma cabane. J'avais 8 ans. J'ai toujours soupçonné une gamine, elle traînait tout le temps seule dans la forêt avec sa robe noire.
On aurait pu enfoncer 6 beignets dans les bouches ouvertes des 6 ados. Tout s'expliquait. »
Mordelia avait volé ce cahier à Louponera quand elle avait 8 ans. Elle l'avait lu, et ça l'avait rendue folle.
Ce cahier, expliqua Zizo, je l'ai lu moi aussi. C'était le journal de Pierre Seul. C'est une preuve de plus qu'il était ton père.
Louponera se leva. Les 6 ados assis formaient un cercle autour d'elle. Elle hésita à le briser pour s'enfuir.
Loupa ! Affirma Valère. Tu dois prendre la tête de la résistance.
De la quoi ?
Bafouilla la fille Louve.
Tu dois être notre chef, renchérit Alix. Nous te suivrons et beaucoup d'autres avec nous. Tu es la fille de Marie-Lune. Tu es l'égale de Génor. Ça compte énormément pour nous. Toi seul as assez d'autorité pour le défier.
Si tu te présentes aux prochaines élections, assura Sabi, tu gagnes direct, surtout contre Mordelia. T'imagines ? Depuis 2 ans, tout le monde ne parle que de toi. La sœur secrète de Nonor, la fille de Mama Luna.
L'idée de se présenter à une élection parut tellement surréaliste à Louponera qu'elle en retrouva une sorte d'assurance.
Jamais je ne serai reine, vous m'entendez ? Je ne règne que sur les fleurs, les poissons et les oiseaux. Pas sur la ville, et encore moins sur les hommes. Je déteste votre vie et tout ce qui va avec. Regardez. Cette termitière,
Il y a plus d'insectes qui y vivent que d'êtres humains sur cette terre. Elle mérite autant d'être protégée que l'humanité tout entière. » Elle observa avec mépris les paquets à ses pieds, les ciseaux, la lime à ongles et les livres. « Tu as une responsabilité !» tenta d'insister Zizo.
« Non !»
cria Louponera. « Vous voulez que je vous parle de mes souvenirs? Alors écoutez ça. Mon père me disait toujours en parlant de la ville qu'on devait rester en dehors, que c'est pour ça qu'on se cachait ici. Pour ne pas se mélanger aux autres fous, c'est ce qu'il m'a appris, me cacher et vivre ici !»
Alix se leva et la défia du regard. « Ton papa n'est plus là, Loupa. Et le monde a changé. Tu ne peux pas te défiler. Nous sommes tous en danger. À n'importe quel moment, Ogénor ou Mordelia peuvent nous jeter en prison. Des centaines de garçons et de filles de notre âge sont traités comme des esclaves, et ce n'est qu'un début. »
Louponera baissa les yeux. « Je suis désolé, mais je ne suis pas celle que vous attendez. » Zizo réalisait que Louponera ne changerait pas d'avis, pas aujourd'hui en tous les cas. Et il devait l'avouer, il la comprenait. Pourquoi irait-elle se mêler des affaires d'un monde qui lui était étranger? Et si, au fond, c'était elle et son père qui avaient raison?
« Ok, » concéda Zizo. « On te laisse tranquille. »«
Attends une seconde !»
fit une voix. Agnel, qui n'avait pas dit un mot depuis le début, s'était approché en silence.
« Je te rassure, » fit l'ado oiseau. « Je ne vais pas te demander d'être notre reine ou d'aller provoquer Ogénor en duel. » Mais je veux juste partager avec toi une intuition. Tu vois, Loupa, je crois que tout est lié. Et ta forêt, si le nouveau monde tourne mal, ne sera pas épargnée. Ni les animaux, ni rien de ce qui vit ou pousse dans la nature. Tu te souviens du sang jaune, celui qui empoisonnait l'eau, qui s'échappait du soleil de fer? Il y avait un nom gravé, je l'avais lu avec Solario. Néo. Mais les animaux ont commencé à être malades avant que le sang jaune ne coule du soleil de fer. Tu te souviens de leurs yeux jaunes? Comme s'ils avaient respiré un air empoisonné. Un gaz jaune, un sang jaune. Tout est lié, Loupa. Et tout cela, j'en suis persuadé, a un rapport avec ce nuage qui a effacé de la terre tous ceux qui l'ont respiré. Alors, même si tu ne veux pas nous aider, essaie au moins de te rappeler. Tu es la seule à te souvenir d'un adulte vivant, à part cet ivrogne de Yak, bien entendu. Réfléchis, Loupa. Le moindre indice peut être important.
Un vol d'hirondelles salua la tirade de Daniel. Louponera parut déstabilisée par les arguments de l'ado oiseau. Alix, du bout du pied, traça quatre traits, identiques à ceux qu'elle avait vus avec Zizo sur la lettre de Marie-Lune adressée à Ogénor. Zizo, en se levant à son tour, traça six lettres dans la poussière. P.I.E. Le nom du laboratoire de Marie-Lune et Pierre Sol.
Rappelle-toi, insista Valère, cherche dans tout ce que ton père a pu te dire.
Il me parlait surtout des animaux, des fleurs. Et le soir, il me racontait des histoires. Elle, je m'en souviens bien. La barbe fleurie, les pivoleuses, le moulin jaune, les sept loups, l'œuf à plumes. « Ok, » abrégea Alix. « Et le nuage ? Il t'en a parlé ?»«
Bien sûr. Papa me disait toujours la même chose. Que ceux de la ville étaient dangereux, qu'ils avaient tout détruit, qu'on devait rester à l'abri. »«
Qu'ils avaient tout détruit, » répéta Valère. « Tu veux dire que ton papa ne te parlait pas du nuage comme d'une catastrophe naturelle ?»«
Il ne me parlait jamais de ce nuage. Mais parfois, quand il était vraiment en colère... Il traitait tous les êtres humains d'inconscients, d'apprentis sorciers. Oui, c'est l'expression qu'il employait, apprentis sorciers. Il disait que la folie des hommes était sans limite, et que si l'humanité avait décidé d'en finir, c'était son problème, mais qu'elle n'entraîne pas le reste de la Terre avec elle, ni nous deux. Et alors il pleurait.
Louponera aussi pleurait. Alix lui tendit un mouchoir de papier dont elle ne voulut pas.
Apprentis. « Apprenti sorcier !» répéta Valère en scandant les deux mots. « Apprenti sorcier ! Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ?
Le nuage mortel n'a pas été provoqué par une météorite, une éruption volcanique ou n'importe quel autre phénomène venu du bout de la galaxie. Non, ce nuage toxique, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Quelqu'un, volontairement ou non, a exterminé l'humanité.
Waouh ! Fit Sabi en se forçant à ironiser.
Sacré boulette ! T'imagines l'ingénieur qui se pointe avec son tube à essai ? Oups, désolé, je viens de mélanger du BX-12 avec du H3O, j'ai l'impression que je viens de rayer de la surface de la Terre 8 milliards d'êtres humains. Il y a à peu près autant de cochons et de lapins.
La blague leur arracha à peine un sourire. Ils étaient tous debout maintenant. À leurs pieds traînaient les paquets éventrés et les gâteaux que des colonies de termites venaient déjà récupérer.
« Et si quelqu'un voulait recommencer ?» lança soudain Agnel.
« Quoi ?»
s'étranglèrent en chœur plusieurs voix.
« Et si, continua-t-il, quelqu'un pouvait à nouveau la commettre, cette boulette ? Et si quelqu'un prenait le relais de ces fous, de ces apprentis sorciers dont parle Lupa ? Et si l'empoisonnement des animaux et le sang jaune, c'était juste un essai ?»
Tous se turent, réfléchissant à l'hypothèse d'Agnel. Pouvait-on vraiment imaginer que le nuage se répande à nouveau sur la planète ? Au sol, les termites s'enhardissaient, mais ils évitaient avec soin les quatre traits tracés dans la terre et les six lettres déjà à demi effacées. Utopie.
« S'il te plaît, Lupa, »
insista une dernière fois Alix,
« souviens-toi, dis-nous n'importe quoi qui puisse nous mettre sur la voie. »
Des larmes noires défiguraient la fille louve. Les crèmes de Lunella ne seraient pas de trop pour lui redonner un visage humain, si jamais elle s'en servait.
Quand il était très en colère contre les apprentis sorciers, les méchants, comme il me le disait, et que je lui demandais s'il pourrait nous trouver, il me rassurait en me disant que non, que les méchants habitaient au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière.
Ils s'obligèrent à mémoriser la phrase sans la comprendre. Au plus profond de la terre et au plus haut de la lumière.
C'est plutôt vague,
regretta Valère.
Il ne disait rien d'autre, ton paternel ?
Si, il avait donné un nom à ce lieu. Ce laboratoire des apprentis sorciers. Il l'avait appelé l'Empire de la Mort.